rare, mais qui montre bien que les oiseaux, voilà, peuvent fabriquer et utiliser des outils.
Et est-ce que ils s'adaptent également en fonction de la situation et de l'outil qui est nécessaire ? Est-ce que le contexte est également important dans, soit dans le choix de l'outil, soit carrément dans sa conception ?
Alors oui, on a essayé de comprendre un peu ce qu'ils comprenaient du matériau qu'ils utilisaient. Alors il y a aussi une étude qui a un peu beaucoup fait parler d'elle avec les corneilles de Nouvelle-Calédonie, avec Betty, un oiseau voilà qui était en laboratoire, auquel on a donné plusieurs types de matériaux, des petits morceaux de métal, etc., et qui a été capable spontanément, sans apprentissage, à tordre un morceau de métal pour créer un hameçon. C'est vrai que c'est impressionnant, surtout que personne ne lui avait appris. Donc elle a été capable de transformer l'outil pour ses besoins. Mais notamment Alice Auersperg avec ses cacatoès, elle a fait plein de manips là, toutes récentes. Il y en a une qui est sortie en 2018 qui montre que selon la distance où se trouve la récompense, les cacatoès, ils peuvent ajuster la longueur de leur outil. Parce que pareil, découper un bout de carton qui est deux fois plus long que ce dont on a besoin, bah, ça demande de l'énergie, hein, parce qu'ils coupent avec leur petit bec. Alors même si les perroquets ont des très bons becs et que ce sont des destructeurs en puissance, ça prend quand même un peu de temps. Donc ils ont tout intérêt à faire un outil qui fait la bonne taille tout de suite. Là aussi, c'est des recherches qui sont toujours en cours, mais qui montrent bien que voilà, ils peuvent s'adapter en tout cas à la tâche qu'ils ont face à eux.
Autre oiseau fascinant dont va nous parler Nolwenn, c'est un petit perroquet du nom du Kea. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce beau plumage ?
Tout à fait. Et je vous propose de voyager un peu. Direction les montagnes du sud de la Nouvelle-Zélande, à la rencontre du Kea et son beau plumage vert et orange. Donc il a le pronom le Kea, subtilement inspiré de son cri que je n'imiterai pas ici.
C'est dommage, mais Nolwenn, pourquoi est-ce que tu veux aller aussi loin pour parler d'intelligence chez les oiseaux quand nous pouvons fréquenter des corvidés qui sont déjà réputés pour leurs capacités cognitives ?
Eh bien, tout simplement parce que le Kea est une espèce réellement singulière. Et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, par rapport à son style de vie. Comme cité précédemment, il vit dans les montagnes, ce qui en fait le seul perroquet des zones alpines. Chose rare chez les perroquets, cet oiseau est omnivore. Cela signifie qu'il peut se nourrir de viande si nécessaire. Pour le côté historique, il fut fortement décimé à cause de son goût prononcé pour la chair de mouton qu'il prélevait directement sur les animaux vivants. Un peu gore. Il est actuellement une espèce protégée depuis 1970. Ensuite, les individus sont très sociables entre eux. À tel point que l'organisation d'un groupe n'est pas basée sur une hiérarchie de dominance, mais sur le jeu. Les jeunes se trouvent des partenaires de jeu et cela permet de renforcer les interactions sociales. Très curieux, certains ont pu être filmés en train de chercher comment ouvrir le couvercle d'une poubelle afin d'y manger les détritus, et spoiler, ils y parviennent. Plusieurs autres vidéos montrent des Kea jouer avec des chaussures, des lunettes, voire des plots de signalisation, amusant ainsi leurs camarades. Son caractère très joueur lui a valu le surnom de « clown de la montagne » par les insulaires. Outre le jeu, la coopération est essentielle lors de la recherche de nourriture. Dans cette activité, les juvéniles sont sous la tutelle d'adultes qui vont servir de modèles dans le comportement de recherche et le maniement d'objets. À ce sujet, la BBC a pu filmer un duo de Kea dans cette situation. Un premier oiseau était confronté à un mécanisme pour débloquer un tube contenant une friandise. Le second a résolu le mécanisme bien plus vite après avoir mémorisé le processus par observation et en ayant imité son camarade.
Mais cette espèce se distingue aussi par ses capacités d'adaptation.
En effet, en 2017, une équipe autrichienne s'est intéressée au mode de résolution de problèmes chez le Kea et le corbeau. Problèmes tels que l'accès à la nourriture dans une boîte fermée. Pour y accéder, les sujets disposaient de 4 outils différents et pouvaient les manipuler avant d'être confrontés à la boîte close. Une fois que l'oiseau utilisait un outil, il lui était retiré et l'individu n'avait le choix qu'entre ce restant, l'obligeant à s'adapter. L'équipe compare ici le comportement des oiseaux à celui des grands singes lors d'une étude similaire. La conclusion révèle que les Kea choisissent préférentiellement les outils avec lesquels ils ont déjà joué ou qu'ils ont déjà manipulé pour résoudre un problème. Autre point notable, l'attitude de découverte resta la même pour chaque type d'outil, Cela signifie que leur intérêt n'est pas motivé par l'appât du gain, mais par la nouveauté de l'objet.
Et leur façon de raisonner dans tout ça ?
Concernant leur capacité de raisonnement, une étude de 2020 met en avant trois points importants. Les expériences consistaient à faire identifier un pot, celui qui contenait le plus de jetons noirs et le moins de jetons orange, assurant ainsi une récompense. Tout d'abord, il s'avère que le KEA peut apprendre par succession d'essais et d'échecs pour mémoriser comment obtenir une récompense. Ce schéma d'apprentissage a déjà été étudié chez les capucins, par exemple. L'oiseau est également capable de raisonner sur une quantité relative pour estimer des proportions, ce que des chimpanzés et des enfants sont capables de faire. Enfin, le KEA peut adapter son jugement si d'autres informations rentrent en jeu. Typiquement, dans cette étude, si une partie du pot est masquée, et donc la quantité totale des jetons seulement en partie visible. Le directeur de l'étude compare ce genre de réflexion à celle que font les joueurs de poker. En faisant une synthèse de ces études, et en les recroisant avec ce qu'on sait du style de vie du KEA, on peut identifier les piliers de l'intelligence de cet oiseau. Tout d'abord, la coopération et l'imitation d'un modèle permettent aux juvéniles d'être efficaces dans la recherche de nourriture. Ensuite, la curiosité et l'expérimentation sont les clés du KEA pour se familiariser avec divers nouveaux objets et comprendre leur fonctionnement. Enfin, selon les deux études que j'ai citées, il semblerait que ce soit le caractère explorateur de ce perroquet qui ait permis une voie évolutive particulière et donc qui aurait pu amener le KEA à faire des estimations pour résoudre des problèmes.
Eh bien, merci Nolwenn pour nous avoir fait découvrir ce perroquet, le KEA, et promis, on ne va pas te demander quel bruit il fait dans la nature. Il est l'heure, du coup, pour nos auditeurs et nos auditrices de réveiller un de vos plus profonds traumas, à savoir peut-être les cours de mathématiques du primaire. Saviez-vous que vous étiez probablement moins intelligent et intelligente que des poussins de 3 jours ? Sébastien, je crois qu'il faut que tu nous expliques en quoi un petit poussin adorable sait aussi bien compter que nous, mais seulement à 3 jours.
Ah non, j'ai pas envie de me faire détester.
En fait, une des choses à prendre en compte, c'est qu'il va y avoir des animaux dont les petits vont avoir besoin d'un temps d'évolution encore, de maturation, etc. chez les humains. Et il y a des petits qui naissent avec une bonne partie de leur capacité d'adulte, des petits précoces. Et les poussins en font partie. Donc les poussins, s'ils ne savent pas encore plein de choses, notamment comment manger, qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui se mange pas, tout ça, ils ont une espèce de compréhension du monde qui est déjà très développée à la naissance. Par exemple, on a démontré qu'ils sont capables de comprendre les positions ordinales, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième dans une suite. Alors ça, on l'a fait simplement en les faisant rentrer dans une petite arène où il y a une planche, donc qui est très longiligne, présentée face à eux et qui est percée de 10 trous. Et pour faire simple, on va dire la nourriture est toujours dans le 4e trou. Donc au départ, on laisse les trous ouverts pour que les poussins puissent les voir. Et puis après, on les ferme, il faut que le poussin tape sur la plaque pour qu'on ouvre le trou pour qu'il puisse accéder à la nourriture. Et on se rend compte que les poussins vont bien systématiquement à la 4e. Et même si on change le nombre de trous, qu'on modifie l'espace entre les trous, les poussins arrivent toujours à aller au 4e. Et ça, c'est intéressant parce que on pourrait dire, bah non, ils sont pas en train de compter, de faire la série, mais ils pourraient tout juste à peu près évaluer combien de temps ils marchent. Ou la modification du nombre de trous, les espacements entre les trous, ça fait changer tous ces facteurs. Donc on sait avec ça que les poussins arrivent bien à différencier la 4e position de la 3e position. Et ce qui est marrant, c'est que on a voulu tester en les entraînant sur une barre présentée verticalement devant eux, enfin dans la longueur par rapport à eux. Et pendant les tests, donc ça c'est pendant les entraînements, et pendant les tests, on la présente en largeur par rapport à eux, c'est-à-dire avec les trous de gauche à droite au lieu d'être devant et au fond. Et on pourrait se dire, il y a 10 trous, le poussin pourrait compter de la gauche vers la droite et le 4e trou en partant de la gauche, mais il pourrait très bien partir de la droite aussi et aller au 4e trou en partant de la droite. Et pendant longtemps, on a pensé en fait que compter de la gauche vers la droite chez l'humain, c'était quelque chose de culturel. Il y a des cultures qui comptent de la gauche vers la droite, d'autres de la droite vers la gauche. Et bien on s'est aperçu que les poussins comptaient de la gauche vers la droite en priorité. Et il semblerait qu'en fait ce soit lié à la façon dont le cerveau traite les quantités. Et visiblement, à peu près, la plupart des espèces ont l'air d'avoir ce biais qui tire, on commence à compter de la gauche vers la droite. Mais ils sont allés encore plus loin que ça. C'est qu'en utilisant le phénomène d'empreinte dont je parlais tout à l'heure, on a imprégné des poussins sur 5 capsules rouges. Donc c'est des petites capsules en plastique Kinder. Et donc, eux les considèrent comme des compagnons sociaux. Ils ont envie de les rejoindre. Quand ils sont tout seuls, ils se sentent vulnérables. Donc, ils ont l'impulsion d'aller rejoindre le plus grand nombre. Donc ça, on le sait déjà de base. Si, par exemple, on met 4 capsules rouges à gauche et une capsule à droite, le poussin, naturellement, va aller chercher les capsules de gauche, c'est là où il y en a le plus. Maintenant, ils ont voulu utiliser ça pour vérifier si les poussins peuvent faire des opérations mathématiques, des additions, des soustractions. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le poussin dans une petite boîte en plexiglas transparente, et devant lui, ils mettent 2 petits écrans en plastique qui sont opaques. Donc le poussin ne voit pas ce qui se passe derrière. Ensuite, on fait descendre au bout d'un fil une première capsule Kinder qu'on montre au poussin. On la met juste devant sa boîte en plexiglas et on va la cacher derrière l'écran qui est à gauche. Puis pareil avec une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et la dernière, on lui montre également et on la cache à droite. Donc à chaque fois, le poussin ne voit qu'une seule capsule avant qu'elle soit dissimulée et une autre arrive. Si le poussin est capable de faire des additions, il sait qu'il y en a 4 à gauche et une seule à droite. S'il n'est pas capable de faire des additions, bah, il devrait aller de manière relativement aléatoire à gauche ou à droite, voire plutôt à droite parce que c'est là où il a vu la dernière. Et bien, il s'avère que non, les poussins vont bien à gauche. Quasiment tous vont immédiatement derrière l'écran de gauche pour chercher les capsules. Donc, on est déjà sur, manifestement, une addition puisqu'il faut être capable de compter 1, plus 1, plus 1, plus 1, alors qu'à chaque fois, il les perd de vue en plus. Donc, il faut qu'il les mémorise et qu'il sache combien il y en a. Mais évidemment, les chercheurs qui ont fait ça, c'est toute l'équipe italienne du labo de Giorgio Vallortigara, ils ont poussé le vice un peu plus loin. Ils ont fait la même chose, 4 à gauche, 1 à droite, et ensuite, ils en prennent un à gauche et ils le transfèrent de l'écran de gauche vers l'écran de droite. Et donc, le poussin voit juste le transfert. Et ensuite, un deuxième de l'écran de gauche vers l'écran de droite. Ce qui fait que maintenant, il reste plus que 2 capsules à gauche et 3 à droite. Donc, si les poussins sont capables de faire une soustraction et une nouvelle addition de mémoire, ils devraient aller à droite. Sinon, ils devraient aller à gauche. Eh bien, il s'avère qu'ils vont à droite. Et ils ont 3 à 5 jours et ils sont déjà capables de faire ça, en fait.
Alors, ça, c'était déjà impressionnant, mais on a vu aussi que les oiseaux étaient capables, bien évidemment, de communiquer, que ce soit par le son ou par le langage corporel, d'utiliser des outils, de compter, donc. Tout ça, c'est bien joli, mais est-ce qu'il existe une transmission de ces savoirs, de ces capacités cognitives entre individus d'une même espèce, voire entre espèces? Est-ce que les animaux et les oiseaux apprennent entre eux tous ces savoirs? Agatha?
Il y a plein de comportements très différents qui peuvent être appris ou non. On a découvert que l'apprentissage du chant chez les oiseaux se faisait par apprentissage. Et même pour aller plus loin, il y a certaines espèces d'oiseaux qui ne peuvent apprendre à chanter, alors je veux dire entre guillemets correctement, c'est-à-dire un chant qui va donner les bonnes informations à une femelle pour la séduire. C'est important pour le mâle d'avoir un chant qui corresponde au canon de l'espèce pour être identifié comme un bon mâle. Et en fait, par exemple, c'est notamment le cas chez le diamant mandarin, donc il y a un petit passereau d'Australie. Si un jeune oiseau n'a pas un tuteur, en vrai, un adulte qui peut chanter à côté de lui physiquement, eh bien l'oiseau, une fois devenu adolescent, n'aura pas un chant fonctionnel. S'il n'a pas un mentor pour lui montrer, il apprend pas bien, en fait. On a du mal encore à comprendre pourquoi. On a essayé de diffuser des sons enregistrés aux oiseaux et ça ne marchait pas. Donc, il y a vraiment besoin de la présence de l'oiseau pour que le jeune calque son chant sur lui. Après, pour d'autres types de comportements, là aussi, pour reparler des cacatoès de Coffin d'Alissa Warshberg, justement après que Figaro se soit mis à faire de la haute voltige là et qu'il apprenne à utiliser les outils, elle a essayé de savoir si les autres membres du groupe étaient capables d'apprendre, parce qu'elle, elle l'avait vu que chez cet oiseau-là. Et elle a fait des expériences, alors je crois que le papier est sorti en 2014. Alors le protocole est assez marrant, parce qu'en gros, elle mettait Figaro en démo, et puis elle mettait d'autres oiseaux qui le regardaient faire, et ensuite elle testait les oiseaux pour voir s'ils étaient capables de faire la même chose. Mais elle faisait aussi des tests fantômes avec des espèces d'aimants qui déplaçaient, sans que l'oiseau ait besoin d'utiliser d'outils, la récompense. Donc en gros, il y avait la cacahuète qui s'avançait comme par magie vers l'oiseau. Je crois qu'elle a testé 6 oiseaux, alors je veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y avait 3 mâles, 3 femelles. Et par exemple, alors là aussi, il faut mettre plein de warning, attention, parce que les études de cognition, bien souvent, il y a des longues étapes où il faut apprendre aux animaux à utiliser les dispositifs qu'on leur présente, et c'est le cas pour cette manip-là, et on teste 6 oiseaux. Donc c'est super, mais il faut toujours garder à l'esprit que c'est que 6 oiseaux, et que l'idéal, bien sûr, ça serait de pouvoir reproduire l'expérience avec d'autres oiseaux, un plus grand nombre d'oiseaux, pour voir si ce qu'on a observé là est généralisable. C'est ce qui est toujours à partir un peu compliqué. Mais pour revenir au cacatoès, je crois que le résultat, c'était que les 3 mâles avaient appris à copier Figaro, donc ils ont appris à le faire, mais pas les femelles. ce qui est surprenant, et parce que habituellement, dans les études sur l'utilisation d'outils, que ce soit aussi bien chez les dauphins, les chimpanzés, même chez corneilles, etc., souvent les femelles, ce sont des innovatrices. Ce sont souvent même elles qui utilisent les outils en premier dans un groupe. Ils arrivent aux mêmes fins, ils utilisent l'outil, ils arrivent à récupérer la récompense, mais ils ont des petites, des petits twists, quoi. Chacun, ça, c'est un petit peu sa patte, et il copie pas forcément avec exactitude ce que le démonstrateur faisait.
Sébastien?
Ouais, il y a un autre truc intéressant à prendre en compte. On a des résultats identiques chez les poules. Ils ont voulu voir si... Alors, on sait que les poussins entre eux peuvent apprendre les uns des autres. Si un poussin voit un autre poussin qui mange quelque chose qui est pas bon et que l'autre a une réaction de refus, une réaction négative, eh bien, le poussin observateur ne consommera jamais ces grains-là. Même 24 heures plus tard, il refuse absolument d'y toucher alors que lui n'y a jamais goûté. On sait que la mère enseigne aux petits. En fait, pour pouvoir parler d'enseignement en éthologie, il faut en gros qu'il y ait quatre grandes caractéristiques de rempli. Il faut que l'enseignant modifie son comportement que quand il y a un observateur naïf. Il faut que l'enseignant ne gagne rien à ça, ou même qu'il ait à payer un coût. Que son comportement encourage ou punisse ce que fait l'autre, et que l'apprenant acquiert quelque chose plus rapidement qu'il ne l'aurait fait tout seul, ou même il aurait pu jamais le faire. Et avec l'expérience dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les poules qui font attention à ce que leur poussin mange ou pas, on est vraiment exactement dans un truc d'apprentissage. En revanche, il y a eu des tests qui ressemblent beaucoup à ceux dont vient de parler Agatha. C'est-à-dire qu'ils ont voulu voir si les poules peuvent copier une autre poule adulte sur un comportement. Donc ils ont appris un certain comportement pour accéder à de la nourriture à une femelle. Et on s'est aperçu que les poules ont tendance à recopier la façon de faire de la femelle démonstratrice uniquement quand celle-ci est une dominante. Donc l'une des hypothèses était peut-être que c'est parce que la dominante est plus grosse. Donc ça attire plus le regard des autres femelles. Et donc ils ont remplacé la femelle, par la démonstratrice, par un coq qui est beaucoup plus gros. Et il s'avère que là, personne ne copie le coq. Donc les femelles, a priori, n'apprennent que entre femelles, et principalement vers la dominante. Et c'est probablement parce que chez les poules, en fait, la hiérarchie des coqs et la hiérarchie des poules ne se croisent pas vraiment. Manifestement, une poule dominante, soit elle est associée à un meilleur risque de réussite, ou peut-être qu'au contraire, elle est plus inquiétante parce qu'elle pourrait venir agresser, donc on est plus attentif sur elle. Mais il s'avère qu'on s'est aperçu que les poules n'apprennent, a priori, d'après cette étude, pas des mâles. En revanche, elles vont apprendre des femelles plus dominantes.
De la sororité même chez les poules. Après ça, interdit de dire que les poules sont bêtes et que les moineaux ont un tout petit cerveau. Merci à nouveau à Agatha Lieva-Bazin et à Sébastien Moreau d'avoir participé à cette émission, ainsi qu'à Nolwenn Laroche-Pelletier pour sa chronique. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes vos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Radio-G.fr 1981 2021
40 ans d'antenne sur Radio G. Bon anniversaire.
closer to the one I love.